France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Alors, dans cette admiration littéraire, et on a raison de dire littéraire, je vais parler d'un philosophe. Tout d'un coup, tout le public se dit aïe, 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 aïe. Ben oui, parce qu'en plus, c'est le plus intempestif, le plus, j'allais dire à la mode, le plus branché. Oui, celui, on ne sait pas pourquoi, qu'a éclipsé pour le grand public, je dis bien le grand public, pas pour les philosophes, celui qui est devenu le philosophe de la modernité, le philosophe du scandale. Évidemment, je parle de Nietzsche. Alors Nietzsche, oh ya ya, les gens se disent, putain Nietzsche, bah oui Nietzsche, mais c'est pas d'un point de vue philosophique. D'abord parce que j'en ai absolument pas la capacité, parce que je suis incapable de savoir si Nietzsche a raison dans son concept de la volonté de puissance, dans sa déclaration de guerre au christianisme, dans son affirmation des valeurs ascendantes, dans sa haine de la pitié, dans son affirmation de l'éternel retour. Comment voulez-vous que moi, apprenti coiffeur à 14 ans et après comédien, je puisse avoir un témoignage légitime sur un philosophe immense? Non, moi je me contenterai de lire Nietzsche, comme je l'ai d'ailleurs déjà fait. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, une année ou deux, j'avais eu cette idée, au théâtre de l'Atelier d'ailleurs, au même théâtre où je joue Hugo, j'avais eu l'idée de lire Nietzsche, mais à la fin, au bout de 55 minutes, une heure, il y avait un vrai philosophe, quelqu'un qui éclairait tout ce que j'avais lu. Même si Nietzsche est d'un abord très facile, parce que un style étonnant, parce que traduit par Alexandre Vialat, et parce que extraordinaire écrivain, poète, mais parce que derrière cette poésie, il y avait du sens à trouver. Et il y avait des gens que j'adorais, j'ai eu un grand ami qui s'appelle Claude Arnaud, grand écrivain, Cynthia Fleury, psychanalyste, Adèle Van Redt, qui a été brillantissime, Alain Finkielkraut, François-Xavier Bellamy, dans sa composante de maîtrise absolue entre le christianisme et Nietzsche, André Comte-Sponville, Pascal Bruckner, et tous les soirs, donc, eh bien, après mes 50 minutes de lecture, un philosophe réel, un philosophe concret, éclairait le public. Étonnamment, c'était plein. Je veux dire que s'il y a un truc que j'ai compris dans Nietzsche, j'ai pas tout compris parce que c'est immense, parce que c'est un continent, parce qu'il faudrait avoir une maîtrise à la fois de Kant, à la fois de Hegel, puisqu'il philosophe à coups de marteau et que sa thèse, c'est qu'à part Héraclite, je vais vite, c'est caricatural, c'est pas un philosophe qui vous parle, c'est pas un intellectuel. Mais comme il philosophe à coups de marteau, eh bien tout ce qui n'est pas Héraclite et lui, c'est la maladie qu'a motivé ces philosophes. Il est le seul, dans son génie et dans son délire, il est le seul qui a philosophé par trop plein. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on peut dire qu'il a merveilleusement photographié ce sentiment étrange qui s'appelle le ressentiment. Alors c'est très compliqué de définir ce qu'est le ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment ? Le ressentiment, alors on peut avoir une explication très simpliste. Un gars te donne un coup de boule, tu lui réponds par un autre coup de boule, il n'y aura aucun ressentiment en toi puisque tu lui as répondu. Mais si le gars qui te donne un coup de boule, c'est très caricatural, tu ne peux pas lui donner de coup de boule parce que t'es petit, parce que t'es malingre, parce que t'es impuissant, eh bien là, va naître de la rancune, va naître de la haine qui va se transformer de ce sentiment de colère en un sentiment qui s'appelle, le ressentiment. Dostoïevski en a remarquablement parlé dans sa nouvelle qui s'appelle « L'homme du sous-sol ». Comment vous définir le ressentiment ? Le ressentiment, c'est la rancune, c'est l'impuissance. Voilà, je suis impuissant et je me victimise. Ça, c'est la thèse de Nietzsche, moi je ne me prends pas parti. Je suis une victime et il faut que je trouve un bouc émissaire, selon la thèse de René Girard. Il faut que je trouve un bouc émissaire pour m'expliquer que ce n'est pas de ma faute. Si je n'ai pas pu pouvoir, si je n'ai pas pu agir, ça n'est pas à cause de moi, dit l'homme du ressentiment, mais à cause d'un bouc émissaire. l'État, toutes les passions terrifiantes qui vont de l'antisémitisme à la radicalité dans plein de domaines. Il y a chez l'homme impuissant une volonté d'accrocher son impuissance à un bouc émissaire. Et alors, ça pourrait se résumer, et j'en parle vraiment très sincèrement, car entre Blaise Pascal et Friedrich Nietzsche, je suis évidemment du côté de Pascal, parce qu'il n'y a rien de moins nietzschien que moi, et pourtant je l'ai lu pendant des semaines et des mois. Mais être nietzschien, c'est un courage absolu, c'est l'affirmation de sa solitude, l'affirmation de l'acceptation qu'il n'y a rien au-delà, qu'il n'y a pas d'arrière-monde, qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a qu'une tragédie qui est la vie, mais ton courage t'entraîne à prendre la vie dans son intégralité et aller jusqu'à ce qu'on appelle amor fati. Alors là, on est dans le très 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 impossible, c'est-à-dire « j'aime ma fatalité ». C'est pour ça que Nietzsche, pratiquement, est un... On ne peut pas suivre. Quelqu'un à qui il arrive une tragédie, et tu lis Nietzsche qui dit « amor fati ». J'aime ma fatalité. Vous comprenez bien que nous sommes le contraire. Nous n'aimons pas notre fatalité. Nous n'aimons pas ce qui nous est donné. Nous en voulons aux autres et même à nous-mêmes. Nous nous détestons. Alors, ce qui est merveilleux dans Pascal, par exemple, qui est très lié à Nietzsche, bizarrement, Nietzsche a adoré Pascal. Il a même écrit dans un texte, je le dis de mémoire, « Pascal, de qui j'ai tellement appris, évidemment, les aphorismes, peut-être, je ne sais pas, et qui est pour moi la plus belle victime du christianisme. À quel point je dois beaucoup de choses à Pascal », écrivait Nietzsche. Alors, la thèse de l'homme du ressentiment, c'est qu'il en veut à la vie. Je ne suis pas content, j'en veux à la vie. Je ne suis pas dans l'adhésion, ni heureuse ni malheureuse, mais dans l'adhésion vitaliste. La vie est comme... Enfin, je ne peux pas vous le résumer en psychologisant. Et pour faire le lien avec Pascal, eh ben, il faut partir quand même de deux textes fondamentaux qui sont l'un et l'autre totalement opposés. De mémoire, Pascal écrit dans ses pensées « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Nonobstant ces misères, poursuit Pascal, nonobstant ces misères, il veut être heureux et ne veut être qu'heureux et ne peut ne pas vouloir l'être. » Mais comment s'y prendra-t-il ? Il faudrait, pour bien faire, qu'il se rendît immortel. Mais ne le pouvant, il s'est empêché d'y penser. Ce qui est incroyable, c'est qu'un texte qui commence dans le Gai Savoir sur la pensée de la mort, il est à Gênes, je crois, et il a écrit un texte qui s'appelle « La pensée de la mort ». La pensée de la mort, c'est un texte qui est dans le Gai Savoir. Le Gai Savoir, c'est le Nietzsche profond, le Nietzsche pas polémiste. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas dans le dernier Ecce Homo, il n'y a pas d'affirmation intempestive. C'est le philosophe, le grand philosophe. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Nonobstant ces misères, il veut être heureux, l'homme, et ne veut être qu'heureux, et ne peut ne vouloir pas l'être. Mais comment s'y prendra-t-il ? Il faudrait pour bien faire qu'il se rendît immortel. Mais ne le pouvant, il s'est avisé de s'empêcher d'y penser. Et c'est d'ailleurs la suite de ce très belle pensée. Et rien n'est si insupportable à l'homme. C'est là où il y a Nietzsche et Pascal qui sont à l'opposé. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos. Sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application, il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Ça, c'est Pascal qui dit « voilà la condition de l'homme ». Et Nietzsche répond, peut-être pas à Pascal, mais Nietzsche dit ce texte incroyable traduit par le plus grand traducteur de Nietzsche, Alexandre Vialat, le grand écrivain Alexandre Vialat. Et voilà ce que dit Nietzsche. il est à Gênes, il se promène comme ça, il se promène dans le port et il est pris d'un sentiment, d'une sensation. Il voit tous les gens qui se baladent et il est étonné parce qu'il dit tous ces gens qui s'agitent, tous ces gens qui se promènent, tous ces gens ne savent pas qu'il n'y a qu'une certitude, ben c'est qu'ils vont mourir. Mais au lieu, comme le christianisme ou comme Pascal, de dire « vous êtes dingue, vous ne pensez pas à la mort », Nietzsche dit que c'est une merveilleuse organisation que la vie m'a mis au point, personne ne pense à la mort. Et voilà le texte de Nietzsche. « J'éprouve une joie mélancolique à vivre au milieu de ce pêle-mêle de ruelles, donc de gênes, de besoins, de voix, combien de jouissances, d'impatience, de désirs. » Combien de soif de vie et d'ivresse de vie naissent ici à chaque instant. Et pourtant, quel silence aura bientôt recouvert tous ces bruyants, tous ces vivants, tous ces avides. Comme on voit bien derrière chacun se dresser son ombre, son obscur compagnon de route, c'est-à-dire la mort, hein. Il en va constamment comme du dernier moment, poursuit Nietzsche, il en va constamment comme du dernier moment avant le départ d'un bateau d'émigrés. Vous savez, on a plus que jamais à se dire, l'heure presse, l'océan et son vide silence attendent impatiemment derrière tout ce bruit, si avide, si sûr de leur proie. D'ailleurs, quand j'étais hippie à Ibiza, quand le bateau partait, on mettait des fils de couleur ou des papiers chiottes et le bateau partait et on gardait les papiers pour que la séparation se fasse le plus tard possible. Ça, c'était dans les années 70, avant d'aller en Afghanistan et en Iran. Mais là, il parle d'un bateau d'émigrés. Alors, il raconte que tout le monde s'excite, alors qu'il y a derrière l'océan qui attend. Et tous, vous entendez, tous, dit Nietzsche, tous s'imaginent que le passé n'est rien, que le proche avenir est tout. Ça, c'est appuyé sur un sentiment qu'on a tous, d'inconscience. On est persuadé. Sinon, c'est la dépression. Sinon, c'est la vieillesse qui rentre dans la dépression. C'est-à-dire, tous s'imaginent que le passé n'est rien, que le proche avenir est tout, pour les gens qui sont capables de se projeter dans l'avenir, souvent les gens plus jeunes. Tous s'imaginent que le passé n'est rien, que le proche avenir est tout. D'où cette hâte, dit Nietzsche, d'où ces cris, d'où ce besoin de s'assourdir, et ce mot je l'adore, et de s'entreduper qui les tient. Chacun veut être le premier dans cet avenir. Hein, on est tous dans cette course-là, peut-être même à France Inter, tout le monde veut avoir un poste, tout le monde veut devenir je sais pas quoi. On est comme des dingues, enfin on est comme des dingues, peut-être pas tous, mais on veut être le premier dans cet avenir. Peut-être pas le premier, mais en tout cas on veut aller, on veut arriver à quelque chose. Et Nietzsche dit, et cependant la mort, le silence de la tombe, est la seule certitude qu'il offre cet avenir qui puisse être commune à tous. Et là, Nietzsche dit une chose extraordinaire. Il dit le contraire de Pascal. Il dit qu'il est étrange que cette unique certitude et cette unique communion ne puissent presque rien sur les hommes et qu'il n'y ait rien de plus loin de leur esprit que l'idée de sentir cette fraternité de la mort. Et c'est la rupture complètement avec le christianisme. Je suis heureux de voir que les hommes se refusent absolument à vouloir penser à la mort. J'aimerais contribuer à leur rendre l'idée de la vie encore mille fois plus digne d'être pensée. C'est incroyable. Il nous dit qu'en gros, on va mourir, mais que la nature est extraordinaire parce qu'elle a mis au point un truc formidable, c'est qu'on n'y pense pas. D'ailleurs, si on y pensait, on ne pourrait plus bouger. Les gens dans ce studio à 7 secondes, intellectuellement, savent qu'ils vont mourir, mais physiquement, c'est abstrait. Parce que si concrètement, ils avaient la sensation aiguë que la mort est au bout du truc, ils n'iraient plus sur France Inter et dans aucune autre radio. C'est clair. Et là, ce qui est génial, c'est que la nature est très bien pour Nietzsche, parce qu'elle s'organise pour qu'on n'y pense jamais. Et on n'y pense jamais. Et il continue en disant « Je suis heureux de voir que les hommes se refusent absolument à vouloir penser à la mort. » Et là, c'est très nietzschien. « J'aimerais contribuer à leur rendre l'idée de la vie encore mille fois plus digne d'être pensée. » Car pour Nietzsche, Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations. Alors, nous avons la chance de pouvoir écouter une musique composée par Nietzsche lui-même. Vous savez, le rapport de Nietzsche à la musique est très compliqué. D'abord, c'est de lui qu'on a la plus belle phrase « La vie sans musique serait une erreur ». Il a été le grand disciple de Wagner. Wagner a dit « C'est l'homme le plus important que j'ai jamais rencontré dans ma vie ». Et puis après, il s'est mis à haïr Wagner en tombant amoureux de sa femme. Bon, ça, c'est très compliqué. Et il s'est mis à devenir fou avec Carmen. Et donc là, nous allons écouter une musique composée par Nietzsche lui-même.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Maintenant, je vais vous lire le dernier texte de Nietzsche. Le dernier texte de Nietzsche, quelques mois avant l'effondrement, quelques mois avant la folie, quelques mois avant la mort de sa vie consciente. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Nietzsche a 7 lecteurs, une dizaine de lecteurs. Il va devenir une star absolue, mais à cette époque-là, il est quasiment aveugle. Est-ce que c'est la syphilis? Est-ce que c'est... On ne sait pas, il erre de petite pension de famille en pension de famille, cherchant Sicile le bon, la bonne météo, après remontant vers Turin, vers Gênes, allant à Nice. C'est à Nice qu'il a eu l'intuition de l'éternel retour. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer. C'est super pointu, mais c'est pas la thèse hindouiste du karma qui fait que tu reviens. C'est autre chose, Nietzsche. Et là, je me lancerai pas. J'ai pas de niveau. Mais maintenant, je vais vous parler d'Ecce Homo. Ecce Homo, c'est le dernier livre. Il est à Turin. C'est la fameuse scène quasiment originelle. Il se promène dans la rue un matin, quelqu'un maltraite un cheval et il plonge par compassion. Lui qui a déclaré la pitié et la compassion comme des sentiments abjects, il plonge dans le cheval et on le relève et il ne sait même plus qu'il est Nietzsche. Et il vivra 10 ans dans les mains de son affreuse sœur qui va transformer ses textes en argumentation pour les nazis. La volonté de puissance, le surhomme, c'est pas du tout comme ça que c'est traduit. Mais elle va le nazifier et ils vont le montrer avec une pièce de monnaie. Ils ouvriront la porte, ils verront un homme avec une moustache complètement hébété. C'est la fin de Nietzsche et de temps en temps, il joue au piano, c'est tout. Il sait pas qu'il a écrit Zarathoustra, il sait pas qu'il a écrit Par-delà le bien et le mal, il sait pas qu'il sait rien du tout. Mais ce dernier livre où, selon Gilles Deleuze, il est encore conscient, parce que tout le monde s'oppose sur l'explication de la folie de Nietzsche. Les scientifiques, les classiques disent c'est la syphilis au troisième degré. Mais on est obligé de dire qu'à un moment dans sa grande vie consciente, il a écrit un texte tout à fait étonnant, je le cite de mémoire, « La folie est le dernier masque que revêt un savoir trop fatal et trop sûr ». La folie est le dernier masque que revêt un savoir trop fatal et trop sûr. Alors, je vous lis ce dernier bouquin. Il va, quelques mois plus tard, mourir. Et là, on dirait de la mégalomanie. Mais c'est pas de la mégalomanie, c'est autre chose. Ça commence par « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» Prévoyant qu'il me faudra d'ici peu affronter l'humanité avec le plus grave défi qui lui ait jamais été lancé, il me paraît indispensable de dire qui je suis. Au fond, cela pourrait se savoir, car je ne me suis pas laissé sans témoignage. Mais la disproportion entre la grandeur de ma tâche et la petitesse pour ce qui est de mes contemporains s'est traduite par le fait qu'on ne m'a ni entendu, ni même perçu. Et là, il y a une phrase géniale. Je vis sur le crédit que je m'accorde moi-même. Peut-être mon existence se réduit-elle à un préjugé. Pour peu que je parle à n'importe quel homme cultivé se rendant l'été en Haute-Engadine, je me persuade que je n'existe pas. Dans ces conditions, c'est un devoir qui répugne au fond à mes habitudes et je dirais plus à la fierté de mes instincts de dire « écoutez-moi parce que je suis tel et tel, surtout pas de quiproquo à mon sujet ». Je suis de tempérament guerrier. C'est un philosophe belliqueux. Hein. Attaquer est un de mes instincts. Être ennemi, pouvoir être ennemi suppose peut-être une nature forte. C'est en tout cas une possibilité qu'on trouve chez toutes les natures fortes. Elles ont besoin de résistance, elles en cherchent par conséquent. La passion de l'attaque fait aussi nécessairement partie de la force que le goût de la vengeance et de la rancune font partie de la faiblesse. D'accord ? Ça, c'est très nietzschien. Hein ? La passion de l'attaque fait aussi nécessairement partie de la force que le goût de la vengeance et de la rancune font partie de la faiblesse. La force de celui qui attaque peut se mesurer à la qualité de l'ennemi dont il a besoin. Toute croissance se trahit par le choix d'un adversaire puissant ou d'un problème ardu. Il dit « toute croissance se trahit par le choix d'un adversaire puissant ou d'un problème ardu » parce qu'un philosophe belliqueux provoque aussi les problèmes en combat singulier. Il provoque les problèmes en duel. Il s'agit pas de vaincre les obstacles d'une façon générale, mais seulement ceux contre lesquels il faut déployer toute sa force, sa souplesse, sa science des armes. Ne se battre qu'entre pairs, c'est la première condition d'un duel loyal. Si on méprise l'adversaire, on ne peut pas faire la guerre. Ma façon de pratiquer la guerre peut se résumer en 4 points. Premièrement, je n'attaque qu'un adversaire victorieux. Et au besoin, j'attends qu'il le devienne. Secondement, je n'attaque jamais que quand je suis sûr de ne pas trouver d'alliés. Quand je suis isolé, seul à me compromettre. Je n'ai besoin de personne, je veux surtout être seul à me compromettre. Troisièmement, je n'attaque jamais de personne. Je me sers d'elles que comme des loupes pour rendre visibles les calamités publiques latentes et insaisissables. Et quatrièmement, je n'attaque en l'absence de tout différent personnel quand le tournoi ne couronne pas une série de mauvais procédés. Parce que attaquer est au contraire de ma part une preuve de bienveillance et de gratitude, parfois en liant mon nom à celui d'une cause ou d'une personne, pour ou contre, ici c'est tout comme, eh bien je lui fais honneur, je la distingue. Si je combats le christianisme, c'est que j'en ai le droit, parce qu'il ne m'a jamais causé de désagrément, ni de gêne. Les chrétiens les plus sérieux m'ont toujours voulu du bien. Et moi-même, ennemi décidé de leur doctrine, je suis bien éloigné pourtant d'en vouloir aux particuliers d'une fatalité que leur impose des siècles. » Il me semble, alors là c'est le Nietzsche qui a de l'humour énorme, il me semble, hein, c'est la grande phrase de Nietzsche, vous savez, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. Alors tuons l'esprit de pesanteur, mes amis. Il me semble que c'est un des plus rares honneurs que quelqu'un se puisse faire à lui-même que de prendre en main un livre de moi. Imaginez, il est tout seul à Turin, il est à moitié aveugle, et il écrit, il me semble que c'est un des rares honneurs que quelqu'un se puisse faire à lui-même que de prendre en main un livre de moi. Je suppose même qu'il enlève ses souliers, pour pas parler de ses bottes, quand il entre dans ses lieux saints. Un jour que le docteur Henri de Stein se plaignait de ne pas comprendre un mot de mon Zarathoustra, je lui répondis que c'était dans l'ordre... Qu'en comprendre seulement 6 phrases, 6 phrases, c'est-à-dire les avoir vécues élevait un mortel à un degré plus haut que le niveau où peuvent atteindre les gens d'aujourd'hui. Comment pourrais-je seulement souhaiter d'être lu par ceux d'entre eux que je connais? C'est la grande phrase de Nietzsche. Il y a des gens qui écrivent pour être compris. Moi, j'écris pour tenir à distance. Alors là, il continue, qui sait respirer l'air de mes écrits, sait que c'est l'air des altitudes, un souffle rude, il faut être bien fait pour lui si on veut pas y prendre froid, la glace est proche, la solitude est formidable, mais que tout est calme dans la lumière, comme on respire librement, que l'on sent de choses au-dessous de soi, philosopher, comme je l'ai toujours entendu et pratiqué jusqu'ici, c'est vivre volontairement sur la glace et sur les cimes, à la recherche de tout ce qui est surprise et problème dans la vie, de tout ce qui jusqu'à présent avait été tenu au banc par la morale. Et là, il y a un truc étonnant. Combien un esprit supporte-t-il de vérité? Combien un esprit supporte-t-il de vérité? Combien en ose-t-il? Et ben voilà le critérium qui m'a servi de plus en plus pour mesurer exactement les valeurs. L'erreur, alors la thèse de Nietzsche, que l'erreur c'est la foi dans une transcendance, dans un monde meilleur, dans un autre monde, ou dans un idéal d'un lendemain merveilleux. L'erreur, la foi dans l'idéal, l'erreur n'est pas un aveuglement, l'erreur est une lâcheté. Toute conquête, tout progrès de la connaissance est un fruit du courage, de la sévérité pour soi-même, de la propreté envers soi. Je ne réfute pas les idéaux, je me contente de mettre des gants quand je les approche. Ça me fait toujours penser à cette pub pour je ne sais quoi, un restaurant américain, et il disait « Venez comme vous êtes ». J'adore cette phrase « Venez comme vous êtes ». Donc les mecs sont en calbute, ils viennent manger un billet, c'est très étonnant. Alors que lui dit « Toute conquête, tout progrès de la connaissance est un fruit du courage, de la sévérité pour soi-même, de la propreté envers soi. Je ne réfute pas les idéaux, je me contente de mettre des gants quand je les approche. » Et là, il va dire un truc complètement dément. Là, il va dire un truc prophétique. On croit qu'il délire, on croit qu'il est fou. Sauf que ce qu'il va dire là est prophétique. Je connais mon lot. Un jour viendra où le souvenir d'un événement formidable s'attachera à mon nom. Le souvenir d'une crise unique dans l'histoire de la Terre. D'un décret dicté contre tout ce qui avait été cru, exigé et sanctifié jusqu'à nos jours. Je ne suis pas un homme, je suis une dynamite. Puis je n'ai rien en dépit de tout d'un fondateur de religion. Les religions sont affaires de populaire. J'ai besoin de me laver les mains quand j'ai touché des gens religieux. Je ne veux pas de fidèles. Je pense que je suis trop impie pour croire en moi-même. Je ne parle jamais aux masses. J'ai une peur horrible d'être canonisé un jour. C'est incroyable parce qu'il est canonisé maintenant. On comprendra pourquoi je donne ce livre avant. Il empêchera de faire cette bêtise. Je ne veux pas devenir un saint. J'aime mieux être pris pour un guignol. Et peut-être suis-je un guignol. Et pourtant la vérité parle par ma bouche. Mais terrible est ma vérité. Parce que jusqu'à présent, c'est le mensonge qui a été appelé vérité. Mon destin a voulu que je sois le premier honnête homme. Il a voulu que je me sache en contradiction avec des milliers d'années. C'est moi qui ai découvert le premier la vérité en voyant le premier un mensonge dans le mensonge, en le sentant avec mon nez. C'est pour ça que j'adore Nietzsche. Mon génie est dans mes narines. Je contredis comme jamais on ne l'a fait. Et je suis cependant le contraire d'un esprit négateur. Je suis un joyeux messager comme il n'y en eut encore jamais.
Une étude pour piano de Nietzsche, interprétée par Loretta Altman.
Sur France Inter, Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Je remercie d'abord pour cette émission-là qui se termine Xavier Pestugia à la réalisation et à la technique, toujours cette merveilleuse Madame Christophe, Thierry Dupin pour la musique, et je remercie Emmanuel Garecino, sans qui rien n'aurait pu être fait. Bonne soirée et à dimanche prochain.